Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. Qui est vraiment Rodrigo Duterte, le nouveau président des Philippines, et le Donald Trump de l'Est, qui ose tacler la CIA? Avant son élection en juin 2016, Duterte n'était pas une figure reconnue sur le plan mondial, mais du coup, ses propos marrants, ainsi que sa tentative de pivot abrupt vers la Chine et la Russie, ont tendance à choquer. Serait-il sérieux? Duterte a déclaré de Barack Obama, par exemple, lorsque le président américain était à Laos pour un sommet régional au mois de septembre, et je cite, « Vous devez être respectueux. Ne vous contentez pas à jeter des questions et des déclarations au fils d'eux. Je vous maudira dans ce forum. » Apparemment, il réagissait à la position américaine qui critiquait de sa manière de lutter contre la criminalité liée aux drogues aux Philippines. Un effort qui fut noté par le département de l'État américain d'après une fuite de câbles diplomatiques publiée par WikiLeaks et qui évoquait des craintes. Même sa rivale à la présidentielle, Grace Poe, avait avoué qu'elle nommerait Duterte le tsar de l'anticriminalité si elle était élue présidente, puisqu'il avait dit qu'il éliminerait le problème en 6 mois. Lorsque Duterte était maire de la ville de Davao, le département de l'État américain l'accusait d'être derrière le groupe Davao Death Squad, responsable d'exécutions extrajudiciaires. C'est noté dans les câbles publiés par WikiLeaks qu'André Sito, l'officier des droits de l'homme à l'ambassade de l'Australie à Manila, avait dit que Duterte lui avait expliqué que les exécutions étaient ce que les criminels comprenaient et que c'était la façon dont les choses étaient faites là-bas. Les câbles ont expliqué que la police de la ville soutenait sa méthodologie et que le gouvernement américain souhaitait le tenir juridiquement responsable de ses actions. Duterte a dit aux résidents d'une partie de la ville infestée de trafiquants de drogue, et je cite, « Si vous connaissez des toxicomanes, tuez-les vous-même, puisque ce serait trop douloureux pour les parents de le faire. » Plus tôt ce mois-ci, il a rejeté les critiques de sa méthodologie et de ses priorités en disant « Vous voulez me chasser? Vous voulez utiliser la CIA? Allez-y », il a dit. « Je vais être évincé? Évincé? Très bien. Si oui, ça fait partie de mon destin. Le destin portant de choses. Si je meurs, cela fait partie de mon destin. Des présidents sont assassinés. » Duterte fut... après tout, élu avec une immense majorité grâce à sa promesse d'éliminer les trafiquants de drogue et la criminalité dans le pays. Mais par ailleurs, les Philippines sont une alliée traditionnelle des États-Unis et c'est les Philippines que l'Amérique soutenait dans la dispute avec la Chine traitant des îles de la mer de la Chine méridionale. Le tribunal international de la Haye a donné raison aux Philippines dans cette affaire. Et Duterte, à un moment, il avait dit, et je cite, « Je vais aller moi-même en Chine avec un jet ski, apportant avec moi un drapeau philippino et un pôle. Et une fois que je débarque, je vais planter le drapeau sur la piste et dire aux autorités chinoises, tuez-moi. » Mais aujourd'hui, il chante un autre hymne, semblant vouloir pivoter vers la Chine. Et ayant même rejeté des exercices militaires en coopération avec les États-Unis. Lors d'une visite d'État à Beijing la semaine dernière, Duterte a réussi des accords de 13,5 milliards de dollars. Alors, que se passe-t-il vraiment? Ce pivot serait-il réel ou plutôt un coup de théâtre? Alors, avec moi au studio pour discuter de tout cela, Pierre Picard est docteur en géopolitique et en géographie humaine à l'Université de Paris 8, spécialiste de la Chine et du monde chinois, écrivain et conférencier sur des questions géopolitiques et sociétales.
Bonsoir.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, que pensez-vous de ce personnage qui semble être venu de nulle part? Est-ce que vous suivez sa carrière depuis longue date?
Oui, effectivement, c'est tout à fait passionnant, en tout cas surprenant, de voir, et très rare d'ailleurs, de voir qu'une alliance, notamment l'alliance avec les États-Unis, qui date de 1951, soit remise en question comme ça un jour avec une déclaration tonitruante, car généralement ce genre de renversement d'alliance aussi brutal, aussi longue, ne se fait que quand il y a une guerre ou vraiment une succession de malentendus géopolitiques très importants. Donc là effectivement on n'est pas tout à fait étonné de la façon dont le président philippin s'est exprimé, mais on est vraiment étonné par ce retournement de situation et son regard nouveau, finalement, en tant qu'ancienne colonie américaine, et son regard nouveau qui se porte désormais, semble-t-il, vers Moscou et vers Pékin. Alors, est-ce que le président philippin aurait finalement réalisé que peut-être son avenir aujourd'hui se construisait avec de nouvelles alliances, la Russie et la Chine, qui sont finalement géographiquement un peu plus proches, et surtout qui représentent deux grandes nations qui ont décidé de prendre leur avenir en main et de se développer en dehors de, j'irais, de la géopolitique ou de la politique unilatérale.
Mais pourquoi maintenant? Je me demande, il était dû au mois de juin, ça fait à peine quelques mois, et du coup, est-ce que c'est vraiment un renversement total de la politique étrangère ou bien la politique d'échange et d'affaires des Philippines, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de jouer un peu le jeu de OK, je vais aller de ce côté pour voir si les autres vont pouvoir me reséduire.
Il est certain qu'il a une personnalité particulière, on ne peut pas dire le contraire. Mais cependant, cette personnalité peut également faire en sorte qu'il teste effectivement de nouvelles alliances en se disant finalement oui, des contrats avec la Russie et la Chine de plusieurs milliards, finalement on n'est pas les petits chiens ou les vassaux des États-Unis. Donc je crois que ça fait pleinement partie du personnage, mais également ça pourrait effectivement donner un revers des alliances. Cependant, je ne crois pas que le président soit complètement fou, entre guillemets, à savoir, je pense qu'il le fera avec une certaine modération, mais c'est un personnage qui a un petit peu la trempe d'un Kadhafi, qui s'exprime comme le faisait Chavez. Donc, il faut encore un petit peu attendre, parce que c'est quand même très récent. Mais en tout cas, l'alliance sino-américaine va mal depuis quelques jours, c'est sûr.
Et les Chinois, ils ne sont pas méfiants, vous croyez ?
Les Chinois sont partie prenante dans cette affaire, doublement parce qu'en fait, leur intérêt est d'assurer la paix et le développement économique dans la zone Asie-Pacifique, de contrer un petit peu les revendications territoriales des États en mer de Chine, de montrer aux États-Unis effectivement qu'ils s'assument pleinement en mer de Chine et qu'ils sont dans cette zone les maîtres du monde. Et c'est aussi une façon de faire un camouflet aux Américains.
Et est-ce qu'on peut...
Donc un succès pour la diplomatie chinoise, en tout cas jusqu'à présent.
Est-ce qu'on croyait vous croyez qu'il y avait des enjeux diplomatiques arrière tout ça, derrière tout ça depuis quelque temps? Ou est-ce que, parce qu'on a l'impression, en regardant à la surface, que c'est quelque chose qui est arrivé du coup. Mais je me demande s'il y avait des initiatives, des enjeux diplomatiques derrière.
Oui, je crois qu'on peut dire que la diplomatie chinoise est relativement fine et elle travaille sur la durée. Elle ne travaille pas sur des coups, sur des opérations qui sont visibles du jour au lendemain. Donc la grande préoccupation de la Chine, c'est effectivement renverser des alliances, en tout cas d'assurer la paix dans cette région. Et quels sont les pays qui contestaient notamment les eaux territoriales en mer de Chine? Eh bien, il y avait notamment, à part le Japon, les Philippines et d'autres pays. Et l'objectif pour la Chine est donc de briser cet élan et cette coalition contre elle. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un travail de fond qui a été mené sur tous les plans, diplomatique, économique, pour que justement, de pression aussi avec des exercices militaires, pour effectivement arriver à ce genre de décision. Ça paraît effectivement arriver comme cela, oui, ça, oui, on peut imaginer qu'il y a eu un travail de fond auparavant avec le président philippin. N'oublions pas que quand le tribunal, la cour, le tribunal de La Haye a donné raison aux Philippines, aussitôt le président philippin a dit oui, mais bon, on va voir, restons calmes, nous ne sommes pas ennemis des Chinois. Donc c'est déjà un premier indice. Le président philippin ne voulait pas rentrer en guerre avec la Chine. Il aurait pu d'ailleurs être très vindicatif vis-à-vis de la Chine. Bien au contraire, il ne l'a pas été. Donc on peut imaginer qu'un travail avait été fait auparavant.
Alors aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays duquel les Philippines importent le plus de matière. Et la Chine, c'est le partenaire d'exportation la plus importante. Comment est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que c'est quoi exactement que les Chinois veulent faire? Parce que je me demande, est-ce que on va vraiment remplacer les États-Unis sur ce plan-là?
Alors c'est vrai que d'abord aussi les Philippins commercent beaucoup avec le Japon, d'où un éloge, beaucoup d'éloges qui ont été faits lors de la visite du président philippin au Japon. Mais la Chine maintenant s'oriente également aussi vers les nouvelles technologies et donc vers le savoir-faire et le savoir-être de qualité. Donc bien évidemment derrière, et c'est très clair, derrière les intérêts géopolitiques et les gesticulations diplomatiques, il y a bien évidemment les intérêts premiers qui sont qui viennent juste après ou qui sont parfois premiers, qui sont effectivement les intérêts économiques. Souvent, les questions frontalières sont des prétextes pour justement envahir, prendre des ressources ou contester des droits économiques. Mais bien évidemment, la Chine entend être le principal acteur dans la zone Asie-Pacifique et surtout prendre des parts de marché, y compris aux Américains. Ça paraît clair.
Ouais, mais déjà ils sont le pays auquel les Philippines exportent le plus.
Oui. Oui.
Alors qu'est-ce qu'ils pourraient prendre de plus? Alors, ils veulent tout le reste aussi. Mais je me demande s'il y a des autres enjeux qui traitent, par exemple, vous avez évoqué le Japon. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Japon, à votre avis, les Philippines?
Il est sûr que dans la mesure où les Philippines ont un très grand partenariat d'échange commercial avec le Japon, la Chine peut prendre également des parts des marchés. Donc l'économie n'est pas du tout à sous-estimer, mais je reste persuadé que dans le cas des Philippines, c'est l'intérêt géopolitique qui domine, à savoir les Chinois veulent à tout prix, en tout cas dans un premier temps, éviter une coalition anti-chinoise en mer de Chine qui pourrait être constituée par exemple de pays comme le Japon, le Vietnam, les Philippines et quelques autres. Et là, effectivement, ce serait pour la Chine un grand danger. Donc, son objectif, c'est de sécuriser, de verrouiller un petit peu comme dans un collier de perles la région, de façon à asseoir la paix dans cette région, mais également sa suprématie.
On a vu déjà lors de l'époque de la guerre en Vietnam aux années 60-70 par exemple que voilà, il y avait une coalition contre les intérêts chinois à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons, notamment c'était pas de monter une opération militaire à l'autre bout du monde dans un endroit où on n'a pas la suprématie militaire déjà, c'est perdu par avance. On voit aujourd'hui la même sorte de situation au Moyen-Orient. On n'apprend jamais les leçons de l'histoire.
Exactement.
Par rapport à ces choses-là. Alors, en sachant, et j'imagine que les Chinois sont bien au courant, que des faiblesses à cet égard du côté de l'Ouest. Alors, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils devraient craindre des opérations occidentaux dans cette région.
Vous voulez parler des Chinois qui pourraient craindre une opération militaire?
Je pars plutôt des. Pourquoi est-ce que les Chinois auraient des craintes par rapport aux opérations occidentaux qui pourraient porter atteinte à la Chine? Est-ce que c'est vraiment une menace réelle?
Je crois qu'il y a la Chine a quand même la mémoire globalement à part sur ses frontières au Vietnam ou avec d'autres pays, la Chine n'a jamais envahi l'Occident.
Hein. Oui.
La Chine n'a jamais fait partie d'une organisation armée internationale. La Chine n'a jamais établi de base à l'étranger, sinon sa diaspora qui est répandue dans le monde entier. Donc on ne peut pas dire que la Chine, en dehors de ses zones frontalières, un petit peu comme tous les pays, elle n'a pas fait de guerre à l'étranger, en tout cas très loin de ses frontières. Par contre, elle a subi, de par le passé, que ce soit à Shanghai, avec la guerre de l'opium, avec le sac du palais d'été de Pékin par les Français, elle a subi des invasions et celles du Japon. Et ça, par contre, la Chine, elle réfléchit énormément sur son histoire et sur l'histoire des autres pays. Et donc, elle ne se laissera plus faire. Elle prend le temps, mais non seulement maintenant elle veut défendre son territoire, mais elle veut également défendre son aire régionale et même au-delà, puisque rappelons-nous quand on a parlé d'un projet de guerre en Iran, c'est-à-dire une intervention éventuelle armée, les deux pays qui à l'époque ont dit attention, vous allez déclencher la troisième guerre mondiale, ce sont la Russie et la Chine. Donc la Chine aujourd'hui est assez puissante pour riposter, mais elle se rappelle bien son histoire et elle ne voudrait surtout pas, notamment que les forces américaines se redéploient massivement et prennent avantage, notamment dans cette zone régionale.
Ouais, l'idée d'une guerre ouverte menée par la Chine, c'est quasiment inconnu. Je peux pas même évoquer un exemple. Mais par contre, on connaît tous, j'imagine les auditeurs aussi, l'art de la guerre. Alors c'est la guerre fait autrement, un peu discrètement, d'une manière couverte, clandestine. Mm-hmm. Alors comment est-ce que
En tout cas, c'est une stratégie, oui.
Comment est-ce que ça s'applique aujourd'hui à la situation actuelle?
Décrypter l'art de la guerre avec ses multiples composantes, notamment les contre-feux, les guerres que l'on fait faire par pays interposés. On est déjà un petit peu, comme le disait le pape François, dans une sorte de troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si le terme est exact d'ailleurs, mais en tout cas effectivement, on se fait aujourd'hui la guerre, ou en tout cas il y a eu des guerres en Syrie, il y a eu des interventions diplomatiques, et puis des changements de régime en Ukraine. Donc en Syrie aujourd'hui, on le voit, tout cela n'est pas neutre. Et donc aujourd'hui, c'est un peu l'art de la guerre, oui, qui se perpétue avec des politiques de communication de part et d'autre, qui fait qu'effectivement, on se fait la guerre via des pays interposés et des populations malheureusement qui en souffrent. Et puis des options de propagande de tous les pays qui est adéquate. Donc oui, l'art de la guerre, il est utilisé par la Chine. Mais aussi, je pense qu'il est utilisé par les nations occidentales et par tous les pays.
Ouais, mais est-ce que
par Napoléon, c'est déjà
mieux fait par la Chine?
Est-ce que c'est mieux fait par la Chine? C'est vrai que la Chine est un territoire que l'on découvre à nouveau, mais qui a toujours été une très grande puissance et qui, en tout cas, si guerre il y avait, elle l'a fait différemment et non pas d'une façon frontale.
Non, pas d'une manière ouverte.
Pas d'une manière ouverte.
Évidente.
Il est clair que la Chine développe des stratégies de développement à long terme, mais il est vrai aussi que quand on étudie la culture chinoise pour ce qu'elle est, notamment à travers le taoïsme, le bouddhisme, mais surtout le confucianisme qui est remis en valeur aujourd'hui, on n'a pas une attitude franchement d'invasion ou de guerre. On a plutôt une attitude de on essaie de bien vivre ensemble, de respecter les autorités mises en place, mais à condition que les règles du jeu soient respectées de part et d'autre, ce qui n'est jamais le cas de part et d'autre. Donc oui, la Chine a des stratégies différentes. Elle vise à long terme, à moyen terme et à court terme. Elle a une véritable aussi politique, diplomatique, pratiquement planifiée. ce que n'ont pas forcément d'ailleurs, elles ne visent pas toujours et pratiquement jamais les intérêts à court terme. Mmh. Il ne s'agit pas d'envahir tel pays par rapport au pétrole, mais effectivement de défendre ses intérêts, d'avoir une vision à long terme. L'exemple de la construction de la nouvelle route de la soie, donc ce grand projet économique dans le monde entier, est un bel exemple de la façon dont la Chine entend faire partie dans le monde. Mais je ne crois pas que les Chinois souhaitent, contrairement à ce que j'entends parfois ici et là, maîtriser le monde dans le sens où je ne parle pas du peuple américain, mais où certains Américains ont voulu construire un monde un peu unilatéral. La Chine ne souhaite pas gouverner le monde, selon mon point de vue. Cependant, elle a une vision du monde beaucoup plus multipolaire. Et les Russes ont également une vision du monde beaucoup plus multipolaire et, de mon point de vue, plus intéressante, y compris avec les pays en voie de développement et les pays sous-développés, et bien sûr en partenariat avec les grandes nations. Et c'est pas forcément le point de vue occidental qui depuis la chute du mur de Berlin tend à nous faire penser que finalement soit on est ensemble et donc on est finalement alliés des États-Unis et donc on prend le thé ou le café ou la bière avec eux, ce qui est très sympathique avec nos alliés américains, mais aussi si on est contre eux ou si on n'est pas d'accord avec eux, bien tout de suite on devient un peu dans l'opposition et donc marginalisé. Les Chinois n'ont pas cette vision là.
Est-ce qu'ils voient les choses de la même manière que beaucoup d'Occidentaux, dans le sens où ils croient qu'aujourd'hui, avec des ressources qui diminuent de plus en plus, des ressources économiques, est-ce qu'ils voient que c'est une compétition, que c'est binaire, que c'est soit on gagne, soit on perd?
Pas complètement, non. Je ne crois pas. C'est pas soit on gagne, soit on perd. Il y a vraiment en Chine l'idée chez les hauts dirigeants de la stratégie gagnant-gagnant. Et il y a également...
C'est pas un cliché, ça? Les gens me disent gagnant-gagnant, je me dis qu'est-ce que je vais perdre?
Non, parce que justement, gagnant-gagnant, et là vous avez totalement raison, c'est qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce qu'on va me voler, ou est-ce qu'on coupe la pomme en deux? Ben non, c'est même pas couper la pomme en deux, et c'est même pas 50-50, c'est essayer de trouver, des avantages qui ne seront pas forcément les mêmes, mais qui vont aller au-delà de 50-50. Autrement dit, la formule gagnant-gagnant, c'est vraiment des partenariats. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs. Est-ce que la Chine n'a pas fait des erreurs en Afrique ou dans le pays? Je crois qu'elle sait analyser ses erreurs et d'autres également peuvent le faire. Cependant, elle a quand même une autre vision du développement qui ne se base pas uniquement que sur une politique de communication, en disant voilà, nous les droits de l'homme, nous la démocratie, globalement, on est les seuls. Quand on voit le développement de la Chine, c'est quand même assez extraordinaire. Rien n'est parfait. Mais néanmoins, près d'1,4 milliard de personnes sont sur le point d'accéder à être des citoyens qui vivent dans une aisance moyenne ou modérée. Donc ce que la Chine a su faire pour elle-même, pourquoi pas? Nous aussi, en Occident, nous sommes capables de faire de belles choses. Mais bon... Essayons plutôt des partenariats que la guerre directe. Mais on est dans un basculement de l'histoire où effectivement il y a une stratégie un petit peu occidentale qui consistait à imposer à l'extérieur par des guerres et des interventions, et puis d'autres nations. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, des pays en Afrique qui veulent porter d'autres espoirs et qui ont également des brillantes civilisations. Et là, on doit partager avec eux.
Est-ce qu'il y a un décalage culturel dans le domaine des affaires entre la Chine et, disons, l'Ouest ou bien les États-Unis?
Totalement.
Dans
totalement.
Quel sens?
Et pas forcément à l'avantage des Chinois ou des Occidentaux. Les Chinois ont eu beaucoup de difficultés à se mettre aux normes en matière de, je dirais, des règles, des licences, etc. Et puis, on a parlé beaucoup du fait que les Chinois copiaient. Mais bon, Chinois, copier, c'est apprendre. C'est pareil, c'est comme nous à l'école.
C'est apprendre. Donc, si on copie le papier du voisin, c'est pour apprendre ce qu'il connaît.
Donc, enfin, si on arrive à faire aussi bien, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, que j'ai entendu à la télévision hier soir, que son maître, ben on est bon quelque part.
Mais c'est pas voler les idées, la richesse de l'autre quand on copie un brevet, par exemple.
Ça, c'est effectivement le concept occidental qui de notre point de vue, comment dire, est également totalement valable. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, les Chinois doivent et se sont mis se mettre dans les règles à tel point que maintenant quand ils ont leur brevet, ils veulent effectivement maintenant qu'on ne les copie pas, et ils veulent défendre leur bien.
Eux aussi
maintenant. Donc ils y viennent. Donc il y a comment dire une adaptation des Chinois par rapport aux normes internationales. Voilà, c'est un bon exemple. Ça veut dire qu'on a à apprendre en construisant un monde nouveau, qu'effectivement, eh bien, les valeurs occidentales,
alors,
c'est pas nul.
Et les valeurs... ils volent le brevet, ils le refont un peu, et puis là, c'est pas possible qu'on le vole.
Oui, non, mais bon, il faut pas non plus être dupe, hein. C'est pas une question.
Mais non, c'est mien.
C'est pas une question de civilisation. Je crois que, en tant qu'individu, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'un pays sous-développé qui a moins de moyens a tendance, effectivement, à s'en tirer comme il peut.
Est-ce qu'ils se sentent toujours sous-développés parce qu'aujourd'hui c'est la plus grande puissance mondiale économique?
Non.
Et toujours on parle du fait que est-ce qu'ils vont continuer à polluer? Est-ce qu'ils vont avoir des excuses pour ne pas être obligés de signer les accords comme les pays développés parce qu'ils sont toujours traités comme un pays sous-développé?
Alors c'est vrai que quand on connaissait la Chine il y a ne serait-ce que 16 ans, c'était effectivement encore un pays en tout cas en développement, ouais. Et qu'il reste aujourd'hui à peu près à la louche. Environ 500 millions de Chinois avec des zones rurales à équiper. Mais aujourd'hui, en Chine, quand on visite ce pays, il y a véritablement un attrait, puis des lois également, pour la biodiversité, pour un environnement durable, et la Chine est bien partie. Et je fais le pari que la Chine, avant 10 ans, sera un exemple au niveau mondial en matière de l'environnement.
Pierre Picard, spécialiste de la Chine et docteur en géopolitique, merci pour votre temps aujourd'hui.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou desormondial.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.